Je lisais cette semaine un article qui date déjà d'il y a 3 ans, un article du journal La Croix qui s'intitule ainsi « Un jeune sur 5 souffre de solitude ». Et dans cet article, donc, on nous donne les résultats d'un sondage qui a été effectué auprès d'une tranche de la population des 18-35 ans. Et ce sondage fait ressortir que près d'un jeune sur deux a déjà ressenti la solitude, occasionnellement ou plus fréquemment. Alors le journal La Croix se demande, est-ce que ça fait partie des aspects romantiques de l'adolescence et de la vie de jeune adulte, les aléas du cœur, des sentiments, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond avec un certain sentiment de retranchement par rapport à la vie sociale. L'article montre que la population inactive, les chômeurs, les gens qui cherchent un emploi, sont plus touchés. Je cite, « Cette population est prise dans un véritable engrenage. Inactivité égale faible pouvoir d'achat égale morale en berne qui contribue à ce sentiment d'isolement. » Quels sont les remèdes ou les solutions que les gens essayent de trouver, que les jeunes essayent de trouver? Première solution, trouver l'âme sœur. Donc, se mettre en couple pour faire contrepoids à ce sentiment de solitude. Question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est une base suffisante pour mener une vie de couple durable, de ne pas se sentir seul? Deuxième solution, améliorer son pouvoir d'achat. Quand on a plus d'argent, on a plus d'amis. C'est une réalité. Et ça aussi, ça peut nous interroger. Sur Internet, l'amitié reste théorique pour les personnes qui ont été interrogées. Et ces personnes déclarent avoir en moyenne, écoutez bien, 178 amis virtuels. En moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y en a plus pour certains. 178 amis virtuels sur les réseaux sociaux contre seulement 7 vrais amis. Et l'article termine ainsi. Les jeunes souffrant de solitude disent pour la plupart compter leurs amis sur les doigts d'une main et passent plus de temps que les autres en ligne sur Internet. 98%, donc la totalité, surfent tous les jours sur Internet tout en ayant conscience qu'Internet les isole. Vous voyez la contradiction? On va passer de plus en plus de temps sur Internet pour multiplier les contacts, et on se sent de plus en plus seul, et on a de moins en moins de vrais amis. C'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. En lisant cet article, je me suis posé quelques questions. Pourquoi notre monde, et en particulier nos jeunes, le sondage est fait sur une population de jeunes de 18 à 35 ans, mais on aurait aussi pu aborder la solitude des personnes âgées, par exemple, dans notre monde. Pourquoi souffrons-nous de la solitude? Pourquoi est-ce que la solitude affecte nos sentiments, nos pensées, nos projets, notre satisfaction dans la vie? Eh bien, la Bible nous donne des éléments de réponse à ces questions. Et j'aimerais en aborder quelques-unes avec vous ce matin. C'est le premier dimanche du mois et c'est notre prédication sur la doctrine biblique. Et le thème qui m'était confié ce matin est le suivant. La destination communautaire de l'être humain. La destination communautaire de l'être humain. Dit en termes plus simples, nous sommes faits pour la communauté. Dieu nous a créés pour que nous vivions ensemble et avec lui. C'est un thème très vaste. J'aurais pu prendre de nombreux versets dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour simplifier les choses et tenir dans le temps qui m'est imparti. J'ai choisi un certain nombre de versets bibliques que j'aimerais parcourir avec vous. Et il y aura les versets qui vont être projetés avec le vidéoprojecteur pour que vous puissiez passer d'un verset à l'autre plus facilement, mais si vous souhaitez suivre et lire dans votre propre Bible, n'hésitez pas. Le plan que je vous propose pour suivre, pour nous repérer, pour nous conduire dans ce thème si vaste, est le suivant. Qu'est-ce que c'est la communauté humaine? Qu'est-ce que c'est la destination communautaire de l'être humain? C'est d'abord, nous avons une origine commune. Nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre en communion, en communauté, les uns avec les autres. Troisièmement, il y a le problème du mal qui a gâché, affecté les relations. Quatrièmement, le projet de Dieu est de constituer une nouvelle communauté, une communauté restaurée. Premier point, vivre en communion avec Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le premier verset que vous trouvez quand vous ouvrez la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant nous, il y a quelqu'un. Nous apparaissons à un moment dans l'histoire. Dieu est là de toute éternité. La Bible ne se demande pas si Dieu existe. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu est là. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que nous pensions à lui ou que nous ne pensions pas à lui, Dieu est là, de toute éternité et pour toute l'éternité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il est le premier. Il nous précède et il nous crée. Qui a créé le monde? C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Dieu nous a créés. Genèse chapitre 1, toujours un petit peu plus loin, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'être humain est créé comme image de Dieu, c'est-à-dire comme son effigie, comme sur les pièces de monnaie, quand vous voyez le visage de quelqu'un. C'est nous la pièce, nous portons la marque de Dieu. Dieu n'est pas visible, nous le représentons, nous sommes son image, ses représentants sur terre. Un petit peu plus loin, dans le deuxième chapitre de la Genèse, versets 15 à 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Le terme n'apparaît pas ici, il apparaît dans d'autres textes, mais on a là la première alliance entre Dieu et l'être humain. Dieu établit son alliance avec Adam, un petit peu plus tard au chapitre 6, verset 18, avec Noé, et puis au chapitre 12 avec Abraham et ceux qui vont être ses descendants. Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël. La notion biblique d'alliance qui va être concrétisée par la loi de Moïse dans l'Exode. Donc, au commencement, Dieu est là, avant nous. Dieu nous crée comme son image pour être en relation avec lui. Et pour concrétiser cette relation entre lui et nous, il fait alliance avec nous. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas notre propre origine. Nous sommes créés et nous dépendons de notre Créateur pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre, si j'en crois le texte ici? C'est écouter et obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est mourir? C'est refuser d'écouter, refuser cette dépendance qui nous lie en tant que créature à notre Créateur. Donc, la première question à se poser avant de savoir quelle est notre destination humaine, et le thème de ce matin nous dit que nous avons une destination communautaire pour vivre ensemble, la première question à se poser pour savoir où l'on va, c'est d'où nous venons. Nous venons de Dieu, notre origine se trouve en Dieu qui nous a voulu et créé pour être en relation avec lui. Et le fait que Dieu nous crée marque une distance entre lui et nous. Ce n'est pas comme dans certaines religions ou dans certaines philosophies où les êtres humains, la création est une émanation de Dieu, c'est-à-dire un morceau de Dieu. Nous ne sommes pas des morceaux de Dieu. Dieu nous a créés. Il a parlé pour nous créer. Et sa parole met une distance entre nous. Nous ne sommes pas fusionnés avec Dieu. Et lorsque nous allons mourir, nous n'allons pas rejoindre Dieu dans la fusion. Nous gardons notre individualité propre et Dieu garde la sienne. Ça veut dire aussi que nous ne sommes pas Dieu et Dieu n'est pas nous. Chaque être humain est donc digne de respect parce qu'il est image de Dieu. Nous sommes des images, nous ne sommes donc pas l'original. Et cela indique le type de relation, le type de communauté que nous sommes appelés à former et à vivre. Dieu est à l'initiative et Dieu est garant de l'alliance qu'il conclut avec nous. Nous, notre part, c'est d'entrer dans cette alliance que Dieu nous propose. C'est de trouver notre place en tant que créature par l'obéissance, c'est-à-dire en disant oui à Dieu. Oui. C'est ça la foi. C'est dire à Dieu oui. Oui, je veux être partenaire de cette alliance que tu conclus avec moi, que tu conclus avec nous. Vous voyez, la vie, c'est quelque chose que nous recevons, qui nous est donné. Et nous pouvons l'accepter ou nous pouvons la refuser. La vie que Dieu nous donne nous place d'emblée sous le signe de la communauté. Il y a un Dieu, nous sommes là et nous sommes appelés à être en relation l'un avec l'autre. Ça, c'est le premier point. Nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu. Nous sommes aussi appelés, deuxième point, à vivre en communion avec les autres. Nous ne sommes pas seulement destinés à connaître Dieu personnellement, nous sommes aussi destinés à vivre les uns avec les autres, à vivre avec d'autres êtres humains. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, ça nous l'avons vu. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Nous sommes créés hommes et femmes, littéralement mâles et femelles. Ce qui veut dire que Dieu a mis dans notre humanité une différence fondamentale, qui est la différence des sexes. Et cette différence sexuelle veut dire que chacun de nous n'est pas tout. Nous manquons de quelque chose, de quelqu'un. Et donc nous désirons être en relation avec d'autres personnes. Ici, la Genèse parle plus spécialement du lien qu'il y a entre l'homme et la femme, entre un homme et une femme. Mais ce désir d'être en relation n'est pas seulement une question affective ou sexuelle. C'est aussi l'amitié, c'est aussi l'envie d'être en société, en association avec d'autres. Et cela, c'est bon, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Dieu nous appelle à vivre en communauté. Un petit peu plus loin, au chapitre 2, toujours dans la Genèse et au verset 18, voilà la première fois que Dieu trouve quelque chose pas bon. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset pourrait à lui seul résumer toute la prédication. Pourquoi est-ce que nous sommes destinés à ne pas vivre tout seul, mais à vivre avec d'autres? Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que nous soyons tout seuls. L'être humain n'est pas fait pour la solitude. Et c'est ce qui rend dramatique les résultats de ce sondage que je lisais en introduction. Il y a une vraie souffrance dans le monde par rapport à la solitude parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si nous sommes célibataires, cela ne veut pas dire que ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de vivre tout seul, de se couper des autres, de la vie sociale en général. Et les personnes qui se mettent en retrait de la société expriment la plupart du temps une souffrance, un mal-être. Au contraire, la Bible fait l'éloge de la vie humaine communautaire. Et le couple homme-femme est en quelque sorte le lieu le plus intime de cette vie communautaire. Mais la vie sociale ne se résume pas à la vie de couple. Il y a d'autres façons d'être en relation dans la vie sociale. Restons quelques instants encore sur Genèse 2. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Un petit peu plus loin, alors le Seigneur Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ce texte nous indique, entre autres choses, à quel type de relation nous sommes appelés par Dieu. Nous sommes appelés à une relation de vis-à-vis entre les hommes et les femmes. Juste quelques points qui me paraissent importants, il y aurait beaucoup de choses à développer, mais je ne fais pas une prédication sur le mariage ce matin, donc je vais me contenter de quelques éléments importants. Le terme d'aide ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ce terme d'aide n'a rien ici de péjoratif ou d'infériorité. On trouve exactement le même mot dans d'autres passages de la Bible, par exemple dans les psaumes, pour dire que Dieu est l'aide, le soutien de son peuple. Dieu est le soutien de son peuple. La femme est créée comme soutien pour l'homme. Il n'y a aucune infériorité là. Le récit du modelage de la femme montre qu'elle échappe à l'homme, à son mari. Il dort. Il dort quand elle est façonnée. Elle est façonnée à partir de lui, à partir d'une de ses côtes. Elle lui ressemble. Mais elle a sa propre apparence, ses propres caractéristiques. Je vois certains hommes qui me disent de leur regard, elle a aussi son propre caractère. Oui, nous aussi, nous avons notre propre caractère. Et quand l'homme découvre cette femme, il jubile, il la nomme femme et il se nomme par la même occasion homme. Vis-à-vis, ils se reconnaissent mutuellement. Il a trouvé une partenaire qui lui ressemble et qui lui échappe tout à la fois et qui le réjouit. Et puis, il y a ce verset qui est souvent cité dans les cérémonies de mariage. Genèse 2, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Juste trois petits éléments ici. Qu'est-ce que c'est le mariage ? Se marier, c'est, un, quitter son foyer d'origine, c'est-à-dire les premières relations qui nous ont façonnées, qui nous ont construites. Deux, c'est s'attacher à une nouvelle personne, et donc aussi une nouvelle famille, qui s'ajoute à celle que nous avons, notre famille de sang. Troisièmement, c'est ne former plus qu'un, ou dans d'autres traductions, devenir une seule chair. Ce qui parle à la fois de l'union sexuelle, mais aussi de la communion dans tous les domaines de la vie de couple. Communion spirituelle, communion sociale, communion financière, gestion du foyer, etc., etc. Vous voyez, se marier, c'est former une unité, une communauté. C'est pas seulement deux individus qui vivent sous le même toit. Et c'est un lien exclusif. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme. Ce qui veut dire que choisir un conjoint, c'est renoncer à tous les autres. Je remarque au passage que la Bible ne parle que d'une seule forme légitime de mariage entre un homme et une femme, qui ne sont pas du même clan, pas de la même famille. Il y a donc ici deux interdits. Interdit de l'inceste, interdit des relations homosexuelles. Vivre en communion avec Dieu, oui, amen. Vivre en communion avec les autres, amen. Problème, c'est que ces deux relations entre Dieu et nous, et les uns avec les autres, sont perturbées par le mal. Et c'est le troisième point. Comment faire face au mal? Ce décor idyllique qu'on pourrait trouver dans les Walt Disney, en tout cas dans certains aspects des films de Walt Disney, Adam et Ève amoureux, se promenant nus, sans honte, dans le jardin d'Éden et jouissant avec bonheur à la fois de leur relation avec Dieu et de la relation l'un avec l'autre. C'est génial. Et puis, dans ce beau décor, le mal fait irruption sans prévenir et séduit Adam et Ève qui vont briser l'alliance. Et cette rupture de l'alliance de la part de l'homme et de la femme a des conséquences sur leur communauté, leur communion avec Dieu et l'un avec l'autre. Quelques exemples. Genèse chapitre 3, verset 8. Après donc avoir transgressé l'interdit, qui était en même temps une protection de la part de Dieu, ils ont voulu connaître eux-mêmes ce qui est bien et mal, et donc se passer de leur Créateur. Quand ils entendirent la voix du Seigneur Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin du Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. La peur s'est installée dans la relation avec Dieu. La honte, la culpabilité. Genèse chapitre 3 verset 12. Interrogé, l'homme, Adam, répond « C'est la femme que tu as placée à mes côtés. » Accusation de Dieu. L'harmonie entre Dieu et l'homme laisse place à l'accusation. Regarde Dieu ce que tu as fait. C'est pas de ma faute. C'est toi. Chapitre 3, verset 24. Après avoir chassé l'homme, Dieu posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était là au milieu du jardin et duquel l'homme et la femme pouvaient jouir parce que la vie était là pour eux. L'accès à cet arbre est maintenant barré. Dieu a mis une limite. L'homme ne peut plus vivre éternellement. Il va mourir. Et c'est ce que Dieu avait dit, vous vous souvenez. Si tu en manges, tu mourras, c'est sûr. La communion avec Dieu est brisée. La communion entre l'homme et la femme aussi est brisée. Genèse chapitre 3, verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cachent leur sexe. Ils ont maintenant honte de leur belle différence sexuelle. Ce qui faisait leur joie et leur bonheur, entre autres, ils le cachent maintenant. Ils en ont honte. Ils ne sont pas devenus des dieux. Ils ne sont pas tout. Ils restent hommes ou femmes. Et ils ont besoin l'un de l'autre. Et ce besoin l'un de l'autre, ça s'oppose à « c'est moi qui décide ». C'est ça le péché. Et puis, je remets ce verset, Genèse 3, verset 12. Tout à l'heure, nous avons vu, l'homme répondit « c'est la femme que toi, Dieu, tu as placée à mes côtés ». Et là, dans la relation avec la femme, « c'est la femme que tu as placée à mes côtés ». C'est elle qui m'a tenté. Accusation des autres quand ça ne va pas. les relations humaines se transforment en rapport de domination. Genèse 3, verset 16, c'est Dieu qui dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et on n'a pas encore fini d'être tracassé par ce problème. Des difficultés de communication dans le couple, des difficultés relationnelles entre les hommes et les femmes dans la société, depuis ce moment-là, et nous y sommes encore maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons retirer comme enseignement de ces textes? Peut-être que toutes nos relations à nous aujourd'hui sont le reflet de cette double réalité. D'un côté, Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui et les uns avec les autres, mais d'un autre côté, le péché est là et le mal nous séduit. Comment est-ce que nous faisons? Parce que le péché nous détourne de cette communion et d'une communauté saine. Pensons quelques instants aux premières expériences que nous avons faites dans la vie communautaire, notre famille, notre propre famille de sang. Chacun de nous a connu du bon et du mauvais dans sa famille. Des parents impatients, des parents trop sévères ou au contraire trop lâches. Des parents trop absents ou bien trop présents, parfois étouffants. Des parents qui ont eux-mêmes reçu du bon et du mauvais de la part de leurs propres parents, et à la génération d'avant aussi, et à la génération d'avant aussi, etc., etc. Et on remonte jusqu'à Adam et Ève. Des relations fraternelles, si nous avons eu des frères et sœurs, nous avons pu expérimenter la joie d'avoir des partenaires pour jouer ensemble, pour faire des bêtises aussi. Mais nous avons aussi expérimenté des rivalités fraternelles qui ont peut-être des conséquences pour nous encore aujourd'hui. Des jalousies, des haines, des sentiments de honte ou de culpabilité d'avoir été comparé ou préféré aux autres. Nous avons expérimenté des relations scolaires, sportives, musicales dans des associations. Nous nous sommes fait des copains et des copines, ça c'est le bon côté de la vie sociale, de la vie communautaire. Des amitiés peut-être. Et en même temps, nous avons peut-être développé un esprit de compétition, l'envie de dominer les autres, de vouloir briller, nous, plus que les autres. D'être les meilleurs, n'est-ce pas ce que l'école nous dit d'une certaine manière, en nous comparant les uns aux autres avec des notes, etc. Les relations amoureuses. Nous avons peut-être envie de trouver un conjoint, ou nous avons peut-être trouvé un conjoint et jubilé un peu comme Adam qui découvre Ève. Et puis le temps passe et le défi de conserver la communauté, la communion avec le conjoint choisi. Ça, c'est pas facile. Il y a la tentation de la lassitude, de la routine, d'une mauvaise routine. Il y a aussi de bonnes routines. Il y a la tentation de l'adultère. Si nous sommes célibataires, peut-être est-ce un célibat subi plus que choisi et douloureux à vivre. Et puis les relations sociales, de manière générale, il y a quelque chose de beau et de bon dans la solidarité humaine, dans le travail par exemple, ou dans un projet associatif. Le plaisir de découvrir de nouvelles personnes, de faire des rencontres, de nouvelles cultures, de nouvelles manières de penser. Il y a du bon là-dedans. Et en même temps, il y a des conflits avec les collègues. Il y a la peur des autres. Il y a l'envie d'accuser les autres quand des projets n'aboutissent pas. Il y a le danger de s'isoler et de se retrouver tout seul, comme ces jeunes dans ce sondage que je citais en introduction. Alors, quelle issue? Quelle réponse biblique? De nouveau, nous avons là une réponse de Dieu lui-même. Dieu qui prend une initiative, celle de remettre l'humanité sur le chemin du projet initial de Dieu. Et Dieu a fait cela, nous l'avons vu tout à l'heure, en Jésus-Christ, qui est un nouvel Adam et qui met en œuvre une nouvelle alliance pour constituer une nouvelle communauté. Et ce sera le dernier point de la prédication. Nouvelle communauté qui est annoncée dès Genèse chapitre 3. Au verset 15, Dieu dit au serpent qui a tenté Adam et Ève et qui les a fait chuter, « Je mettrai l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il y a là probablement une annonce prophétique de la venue du Messie, de celui qui viendra dans la descendance humaine et qui sera en même temps Dieu et qui va écraser le serpent, qui va résoudre la question, le problème du mal en le prenant sur lui. Ça veut dire que Dieu vient de notre côté, du côté de l'humanité, pour combattre le mal et créer une nouvelle communauté qui le glorifie. Alors, passons au dernier temps de cette prédication. Vivre en communion avec Dieu, c'était le premier point. Ensuite, vivre en communion avec les autres. Troisièmement, faire face au mal. Et quatre, vivre une nouvelle communauté. De Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu fait du nouveau. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ne pas être vaincu par le mal, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que cela vient de Dieu. C'est marqué là dans le verset. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et puis le projet de Dieu, ce n'est pas seulement de sauver des individus, c'est de former une nouvelle communauté. Vous pouvez surligner ou souligner ce verset dans votre Bible. C'est un bon résumé de l'évangile, du projet de Dieu pour nous, pour l'humanité. Tite, chapitre 2, verset 14. Il, c'est-à-dire, c'est celui dont on parle au verset d'avant, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Notez au passage, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et passionné pour de belles œuvres. Vous voyez ce verset ? Le mal n'est pas une fatalité. Dieu veut guérir les hommes des blessures causées par le mal, en transformant leur vie, en transformant leur caractère. Et l'Église, c'est-à-dire le peuple que Dieu se constitue au fil des siècles, l'Église est cette communauté dans laquelle nous expérimentons les conséquences de notre nouvelle vie en Christ. Et là, je vous rappelle le thème de notre année. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'Église, c'est le lieu où nous apprenons à aimer, à nous aimer, à aimer les autres d'une manière différente des relations premières que nous avons connues, de nos premières expériences familiales, scolaires, amoureuses, sociales, professionnelles, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez, que vous avez vécu. La difficulté, c'est que nous sommes parfois, souvent, tentés par notre ancienne manière de vivre, de penser. Et nous voyons que la vie chrétienne, c'est pas seulement comprendre qui est Jésus, mais c'est le laisser jour après jour, mois après mois, année après année, toute notre vie transformer notre manière de penser, notre manière de vivre. C'est un processus. Et j'aimerais méditer avec vous pour finir quelques versets dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Voilà ce qu'il nous dit et nous allons nous arrêter par étapes sur ces versets. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne ? Réponse : il s'agit de vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Ça consiste en quoi la vie chrétienne ? À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. La phrase est un peu compliquée, je la relis. Être renouvelé par le changement, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans notre vie, quoi ? Ce qui oriente notre pensée, notre mentalité, nos habitudes, notre façon de penser, notre façon de voir le monde, de voir les autres, les relations. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie sainte que produit la vérité. Notre homme naturel, notre naissance biologique naturelle, n'est pas suffisante. Il faut que nous revêtions l'homme nouveau. Quel est le modèle de cet homme nouveau ? C'est le Christ. C'est lui, l'homme nouveau, que nous devons revêtir. Alors, tout cela peut nous paraître un petit peu du charabia. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Regardez, quelques exemples là, très précis, très concrets. C'est pourquoi, donc, on a revêtu le Christ, donc, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Quelle est la place du mensonge dans nos vies ? Paul est en train de dire que ça, c'est rattaché à notre ancienne manière de vivre, si nous sommes chrétiens. Débarrasser du mensonge. On pourrait dire de l'esclavage du mensonge, parce que nous mentons encore, plus ou moins régulièrement, mais nous sommes appelés à ne plus mentir. Débarrasser du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Et ça, il ne s'agit pas seulement d'éviter de mentir, mais aussi de dire la vérité, de faire ce qui est bien. Autre exemple, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Il y a une place pour la colère. Mettez-vous en colère. Mais ne péchez pas. Alors jusqu'où notre colère est-elle juste ? Et à partir de quand va-t-elle trop loin ? Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Alors là, on a un truc pratique pour répondre à la question précédente. À partir de quand notre colère va trop loin ? Ben, après le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ça veut dire que quand nous sommes en train de ruminer notre colère, notre amertume, « Ah, celui-ci ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Ah, mon collègue m'a dit si. » Voilà. Et tout le temps qu'on est en train de ruminer, tant qu'on n'a pas réglé ça devant Dieu et probablement avec l'autre, on est dans une période délicate où Satan, le diable, peut utiliser nos sentiments de colère pour nous faire dévier. Ne donnez aucune prise au diable. Il ne s'agit pas de régler vite les problèmes pour faire comme si c'était rien passé. Mais peut-être que nous avons quelque chose à entendre ici, de certaines de nos colères que nous laissons trop ruminer. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Les voleurs, c'est les autres, hein ? Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il y ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Il se pourrait que certaines personnes, je ne parle pas de nous là, hein, nous on est chrétiens, Il se pourrait que certaines personnes profitent du système et plutôt que de travailler, se contentent de toucher des allocations. J'ai peut-être lancé un pavé dans la mare, comme on dit. J'ai rien contre les allocations. J'ai deux enfants, je suis bien content d'avoir l'aide de la caisse d'allocation familiale. Ne refusons pas les allocations. Mais cette tension entre ce que l'État nous donne et ce que nous produisons comme travail. Que le voleur cesse de dérober. De quoi est-ce que je profite dans mon travail pour mon intérêt personnel? Est-ce que je fais mes photocopies au boulot, par exemple, mes photocopies personnelles? Qu'est-ce que je télécharge comme musique, comme film, légalement? Tout le monde le fait, n'est-ce pas? Mais si nous sommes chrétiens, est-ce que c'est ça que nous faisons? Moi, je lis que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour acheter ses DVD. Et si on regarde bien la conclusion de ce verset, c'est pas d'abord pour nous que nous travaillons. Pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Et alors là, ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous faisons notre budget, la question à nous poser d'abord, c'est pas « qu'est-ce que je gagne ?» c'est « qu'est-ce que je vais donner ?» Et la question « qu'est-ce que je gagne ?» vient répondre à la question « qu'est-ce que je vais donner ?» Vous voyez? Le renversement de mentalité, la manière dont l'Évangile renverse ce que tout le monde pense. Quand on prend notre fiche de paye, la première chose qu'on regarde, c'est le montant en bas, pour savoir si le patron ne nous a pas arnaqué, si on a bien tous nos congés payés, etc. Qu'est-ce que je gagne? Eh bien, Paul est en train de nous dire, quand tu regardes ta fiche de paye et que tu vois le montant en bas, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Waouh! Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Déjà, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, il y a du boulot, hein. Parce que quand la colère est là, que ça monte, ça sort. C'est plus fort que moi. Eh bien, c'est plus fort que moi que le Seigneur veut transformer. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. C'est pas seulement s'abstenir de dire des gros mots ou de dire des méchancetés, c'est apprendre à dire de belles, de bonnes paroles. Pourquoi? Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Donc là encore, c'est pas pour nous d'abord, c'est pour les autres que Dieu nous transforme. Pour nous aussi, mais c'est d'abord parce que nous ne sommes pas tout seuls, nous vivons avec d'autres, en communauté. Apprendre à dire des paroles qui vont faire du bien à ceux qui nous entendent. Cette semaine, dites de belles choses à votre patron. Dites de bonnes paroles à vos camarades de classe. Dites de belles choses à votre conjoint, à vos enfants. Et regardez encore. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Combien de paroles est-ce que nous disons qui ne sont pas à propos? Il ne s'agit pas seulement de faire attention à ce qu'on dit, pour pas que ça sorte comme ça des méchancetés. C'est de parler à propos. Des paroles qui tombent justes. Des mots choisis. Alors il ne s'agit pas de passer sa journée à réfléchir aux mots qu'on va dire, parce que sinon on ne dit jamais rien. Mais peut-être qu'on a à apprendre davantage à se taire, au moins un temps, avant de dire quelque chose qui soit à propos et qui va faire du bien à ceux qui nous entendent. Et puis, pour dire les choses de manière plus positivement, Paul dit « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » L'exemple de Christ. L'exemple de l'amour du Christ pour nous comme règle pour notre conduite. Imiter Dieu qui est notre Père. Nous comporter comme ses représentants, son image, comme nous l'avons vu tout au début. Alors, c'est difficile, n'est-ce pas ? Et c'est difficile aussi dans l'Église. Pourquoi ? Parce que nous tous qui sommes venus à Christ avec nos problèmes familiaux, sociaux, etc. Eh bien, Dieu nous met ensemble pour qu'ensemble, nous progressions dans la sainteté. Et c'est ça l'Église. Des gens qui savent qu'ils sont incapables d'être bons par eux-mêmes, parce que le péché a tout gâché, mais qui comptent sur la grâce de Dieu pour les sauver et transformer leur vie. Dieu nous appelle ensemble à passer d'une vie où nous faisons le mal à une vie où nous faisons le bien. L'Église n'est pas parfaite, nous le savons, pas encore parfaite. Il ne faut pas s'en satisfaire, parce que sinon on risque d'excuser le péché dans l'Église. Mais il ne faut pas non plus désespérer, sinon nous risquons d'abandonner l'Église parce qu'elle n'est pas assez pure. L'Église, c'est un rassemblement de gens qui ont plein de problèmes pas encore réglés dans leur vie et qui sont unis dans la foi en Jésus-Christ qui nous sauve et qui nous mène ensemble à la perfection. Je répète cette phrase. L'Église, c'est un rassemblement de gens qui ont plein de problèmes pas encore réglés dans leur vie, ça c'est chacun de nous, et qui sont unis dans la foi en Jésus-Christ qui nous sauve et qui nous mène ensemble, pas seulement individuellement, mais ensemble, vers la perfection. Je relis ce verset en conclusion. Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et passionné pour de belles œuvres. Est-ce que nous sommes passionnés pour le bien ce matin ? Nous allons prier. Seigneur, merci parce qu'au travers de ce thème de doctrine, tu nous rappelles que nous sommes appelés par toi à vivre en communauté, en communion, en relation avec toi et les uns avec les autres. Ma prière ce matin, c'est que tu renouvelles notre passion pour le bien, que tu nous aides à être tes imitateurs, que tu nous aides à résister au mal pour faire ce qui est bien à tes yeux, toi qui es notre Père. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui sont en difficulté relationnelle en ce moment, en difficulté avec toi, dans la relation avec toi, en difficulté dans la relation de couple, en difficulté avec les enfants, en difficulté dans le célibat, en difficulté avec les collègues. Je te prie pour ceux qui sont découragés par les circonstances. Je te prie pour ceux qui ont du mal à être passionnés par le bien parce qu'ils sont encore passionnés par le péché dans tel ou tel domaine de leur vie. Seigneur, continue à nous transformer. Seigneur, continue à faire de nous de nouvelles créatures, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Transforme encore notre caractère. Et continue à faire de nous une communauté nouvelle, une communauté qui donne envie à nos voisins, aux habitants de cette ville, d'être transformés par toi, parce qu'ils voient dans la communauté l'amour. l'amour de Dieu. Seigneur, transforme nos relations communautaires. Amen.